dignité, non à la fermeture.
À la vôtre.
L'émission
Santé
de Radio Sainte-Afrique.
Bonjour, vous êtes sur Radio Sainte-Afrique. Évidemment, les émissions sur la santé se poursuivent au moment de cette crise du coronavirus. Tout ce que nous pouvions dire et tout ce que nous continuerons à dire sur les manques d'effectifs, l'austérité, l'hôpital ressort aujourd'hui dans des conditions dramatiques. On en reparlera plus tard, l'heure n'est pas au bilan. Mais il y a quand même quelques questions qu'il ne pourra pas éviter de poser de plus en plus longtemps, parce que quand on nous dit que le personnel est débordé, quand on nous dit qu'il va manquer des places et qu'on arrive au pic prochainement, effectivement, la suppression des lits a des conséquences dramatiques, on s'en rend compte. Des millions sont investis pour préparer des guerres, même quand on est en temps de paix. Mais manifestement, quand on est en temps de guerre sanitaire, les millions qui n'ont pas été investis sur l'hôpital pèsent aussi beaucoup. On en reparlera. Donc on va avoir quelques réponses aujourd'hui à des questions que posent les auditeurs. On va aussi donner des informations sur les initiatives. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une organisation particulière mise en place sur les hôpitaux de Sainte-Afrique et de Millau?
Oui, il y a une organisation qui est mutualisée.
Vos questions, vos réflexions sont soumises à l'avis d'un docteur, docteur Darras, qui travaille aux urgences de l'hôpital de Sainte-Afrique.
Pour l'instant, c'est Rodez donc, qui dirige le navire. Et donc, l'idée étant que les patients aujourd'hui qui sont suspects d'être positifs au Covid, donc patients à risque, disons, plus simple dans les termes, sans désigner ni quoi que ce soit. Je pense que bon, c'est pas une maladie honteuse non plus, mais bon, suspect, c'est pas vraiment un terme très adéquat, il me semble.
Ouais, susceptible, on va dire susceptible d'être malade, atteint par la maladie, quoi, oui.
Voilà, donc susceptibles d'être concernés par la maladie, ils sont envoyés pour l'instant à Millau, donc qui a un étage dédié. Alors bon, pour ce qui se passe à Sainte-Afrique, les patients sont triés à l'accueil de l'hôpital, directement à leur arrivée, et en fonction de la sévérité des troubles, il y a trois possibilités, hein, grosso modo. Première possibilité, le patient est dans un bon état clinique, il semble en état de rentrer chez lui. À ce moment-là, on le renvoie chez lui et avec du doliprane, un arrêt de travail, les conseils d'hygiène nécessaires pour pas qu'il contamine sa famille. Et on le signale à son médecin traitant pour que son médecin traitant continue à le suivre, notamment pour que au cours du 5 ans, entre le 5e et le 7e jour, vous savez, c'est le moment où il y a le plus de risques d'aggravation.
D'accord.
Notamment la deuxième semaine chez les jeunes.
D'accord, donc
les jeunes.
Il y a un suivi, fait par le médecin, le médecin de ville, quoi, le médecin habituel. D'accord.
C'est ça, le patient est renvoyé donc à son domicile et avec un suivi par son médecin traitant de médecine libérale. Donc ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, ce sont des patients qui nécessitent quand même de l'oxygène, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une maladie, pour l'instant, pour ce qu'on en sait, hein, parce qu'on n'en sait pas grand-chose, puisque c'est une maladie émergente, c'est une maladie qui, pour l'instant, on sait, asphyxie le patient par l'inflammation qui est générée à cause du virus au niveau du poumon. Bon, ça c'est pour aller rapidement. Oui. Donc les patients qui vont nécessiter une assistance en oxygène simple vont être adressés à Millau. Alors pour être hospitalisés et aussi sous surveillance parce qu'ils sont quand même susceptibles de s'aggraver secondairement,
d'accord,
d'être intubés, et à ce moment-là, ils vont être dirigés vers une réanimation. Alors, sur les sites de Sainte-Afrique et de Millau, il y a moyen de faire de la réanimation, mais il faut bien savoir quand même que la maladie qui nous intéresse aujourd'hui, celle du SARS-CoV-2, c'est une maladie qui nécessite une réanimation très particulière. avec une mise à plat sur le ventre du patient pour recruter des alvéoles, pour mieux ventiler. C'est une maladie qui est très difficile à réanimer et qui nécessite des techniques donc réanimatoires particulières avec des pressions particulières aussi. C'est pas l'infection pulmonaire lambda.
D'accord.
Du moins pour ce qu'on en sait, ce que nous en disent nos professeurs de médecine de la faculté du CHU de Montpellier.
Et donc pour l'instant, dans ces cas graves, c'est pas Mio ni Saint-Af qui les prend en charge, c'est carrément Montpellier, c'est ça,
c'est Montpellier ou Rodez.
D'accord.
Alors l'arrêt de Rodez est une vraie. Et, si vous voulez, sur Saint-Afrique et sur Mio, il y a des soins continus. Donc ces soins continus pour l'instant continuent d'aider, soins continus. Le jour où les réas seront saturées, si elles le sont, on ne le sait pas encore, peut-être qu'il y aura des malades qui seront en réanimation, les soins continus seront transformés en réanimation.
D'accord.
Maintenant, pour l'instant, l'ARS est en train de faire un recrutement, voir quels sont les respirateurs qui pourraient convenir à ces réanimations spéciales, pour pouvoir éventuellement les transférer vers des hôpitaux où les praticiens ont l'habitude de ce type de réanimation. Maintenant, il faut dire que est-ce qu'on va rester sur cette technique-là de réanimation, ou est-ce qu'avec des nouveaux médicaments, on va pouvoir avoir des réanimations plus légères qui vont permettre des prises en charge différentes? On n'en sait rien aujourd'hui.
Oui, il y a un débat important dans le corps médical qu'on suit à travers les médias sur les pistes de solutions médicamenteuses qui sont expérimentées en ce moment, quoi.
Ouais. Oui, effectivement, il y a le débat de l'hydroxychloroquine. Bon, c'est bien qu'il y ait des débats, je pense. Maintenant, la chloroquine est une possibilité. Au sens où on sait qu'elle neutralise le virus au moment de sa pénétration dans la cellule, si j'ai bien compris le système. Moi, j'essaie d'écouter, comme vous ou comme d'autres, les spécialistes, et puis je me renseigne auprès de mes confrères plus proches, savoir un petit peu ce qu'ils en pensent. Bon, il semblerait que la chloroquine agit aussi bien que l'alcool, l'eau de Javel. Vous savez, on utilise de l'alcool pour se laver les mains, et ça tue le virus.
Okay.
C'est pas pour ça qu'il faut se mettre...
qu'il faut tous se mettre à l'alcool à fond, là, oui.
C'est pas pour ça qu'il faut boire toute une bouteille de vodka et que ça va vous guérir.
Ça va pour arranger les choses, peut-être même. Parce que ça abîme le foie, en plus. Ouais.
Voilà, on peut pas... Aujourd'hui... à partir d'un simple constat comme celui-là, dire que sur l'être humain, on va avoir le même résultat. Il y a d'autres molécules qui sont à l'essai. Apparemment, le Caletra est des produits qui étaient à l'essai dont on se sert contre le virus du sida, le VIH. Apparemment, ces essais ne sont pas fructueux. C'est ce qui a fait apparemment... Je crois qu'il y a eu des problèmes... Le cours de l'action du laboratoire qui produit les trains à acheter aujourd'hui, donc ça c'est un signe comme quoi les résultats sont pas probants. Et puis il y a aussi des études sur un autre médicament qui a été mis au point contre le virus Ebola.
D'accord.
Alors là, lui continue à tenir la corde. Voilà, il y a ces trois produits là. Pour l'instant, on n'a rien d'autre.
Ça m'amène un peu à une question, c'est quelle est la grande différence qu'il y a entre la grippe, parce qu'on a quand même évoqué le virus de la grippe comme étant proche de cette épidémie, il y a vraiment une différence importante entre ces deux virus?
Alors, moi, je suis pas virologue, oui. C'est un petit peu comme si vous me demandiez s'il y a une différence entre la vache limousine et la vache de Aubrac. J'aurais du mal à faire la différence entre une vache et un taureau, de loin. Donc, je ne pourrais pas vous dire quelles sont les différences d'un point de vue morphologique du virus.
Par contre, pour le patient, surtout, vous voyez.
Comment ?
Pour le patient, surtout. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, il y a un délai entre le temps où on est infecté et le temps où on a les symptômes, il y a quel délai qui se passe à peu près ?
On pense que ça va de quelques jours à une semaine, voire deux semaines.
Ça peut aller jusqu'à deux semaines entre le temps de l'infection et les premiers symptômes.
Oui, on pense que ça, c'est de cet ordre-là. On est sur les... On navigue. En fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les tests pour affirmer que vous êtes porteur ou pas du virus sont fiables à 70%.
Oui, d'accord.
Ça fait 30%.
Il y a quand même une marge, oui, effectivement.
Ça fait une chance sur trois de vous tromper, oui. Savoir si le patient est porteur ou pas porteur. Donc, si vous voulez, à partir du moment où vous avez du mal à faire le diagnostic, tout est compliqué.
Oui, tout est relatif après. Effectivement, les données sont plus les mêmes.
Voilà. Alors, il y a des recherches pour faire des sérologies, pour trouver les anticorps, pour retrouver les anticorps que l'on générerait suite à une infection de ce type. Bon, on attend encore. Mais bon, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont inconnues des médecins. Et donc, je pense que la majorité de nos compatriotes ou d'ailleurs des Européens sont inquiets, et à juste titre, parce que leurs médecins n'en savent pas beaucoup plus qu'eux, finalement. C'est vrai que c'est une maladie qui semble avoir des symptômes proches de la grippe, puisqu'on appelle globalement des syndromes grippaux, c'est-à-dire qu'on peut avoir... Cette maladie se distribue en deux types de symptômes, des symptômes de type otorhino-laryngologique, avec le nez qui coule, mal à la gorge, de la fièvre, on tousse, ce genre de choses, et puis des choses plus basses, avec des douleurs pharyngées, des douleurs bronchiques, une oppression thoracique, une difficulté respiratoire. Voilà, c'est tout l'arbre respiratoire essentiellement qui est touché. Mais il faut ajouter une case de plus, c'est la partie digestive qu'on va retrouver plus précisément chez les personnes âgées. On s'est rendu compte que les personnes âgées commençaient plutôt par une diarrhée, des confusions, etc. Donc c'est une maladie qui semble simple au début, puis plus on la connaît, plus on trouve des exceptions, et on se rend compte qu'elle est pas si facile que ça à diagnostiquer, parce qu'elle est un peu comme la grippe, mais ben, c'est une cousine, si vous voulez. On s'est rendu compte très récemment qu'il y avait des pertes de goût et de l'odorat. Donc on pense que ce virus attaque aussi les cellules neurologiques.
D'accord, oui, c'est quand même des recherches très compliquées à mener, parce qu'on voit qu'il y a pas beaucoup de pistes d'études à faire là. C'est pas simple. Et comment ça se passe pour un médecin comme vous qui travaille dans un hôpital? Vous avez des informations régulières qui vous arrivent des collègues qui font des recherches? Comment ça se matériellement pour les médecins? Quel réseau fonctionne un peu entre vous?
Ce qui fonctionne le mieux, c'est les amis qu'on a de la fac.
C'est les réseaux personnels en fait.
Oui, c'est plus les réseaux personnels pour ce qui est des constatations. On est dans une période où les choses vont tellement vite qu'on n'a pas le temps de les analyser. Donc on est obligé d'aller chercher l'information près de personnes en qui on a confiance, parce qu'on n'a pas le temps, si vous voulez. Oui, il file tellement vite que, si vous voulez, par exemple, moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est que on a mis autant de temps à réaliser qu'on avait besoin de masques. Si vous voulez, il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème de prévention primaire, c'est-à-dire au niveau de l'ensemble de la population. Et il y a un problème de prise en charge secondaire, c'est au niveau de la réanimation. Les deux problèmes qu'on a, c'est ça, c'est protéger la population Donc, se laver les mains, mettre un masque.
Le masque, le confinement, enfin, toutes les mesures qui sont prises là en ce moment.
Oui, voilà. Mais je pense que si chacun, il me semble, moi après, peut-être, je ne suis pas médecin hygiéniste, je n'ai pas toutes les qualifications pour répondre clairement à cette question, mais il me semble qu'il faut poser sur la table cette question. Si tout le monde se lavait les mains, ne serait-ce qu'avec de l'eau de Javel ou avec un produit efficace, en sortant de chez lui, en entrant dans un magasin, en sortant d'un magasin, si tout le monde avait un masque, ne serait-ce que s'il l'avait fait avec du tissu, maintenant on commence à savoir quels sont les tissus adaptés ou pas adaptés, il y a des schémas de masques qu'on voit sur Internet. Et si ce masque, on le nettoyait à 60 degrés chez soi, est-ce qu'on ne pourrait pas faire fi du confinement ? C'est quand même une question importante, ça. Mmh. Il me semble, après, bon, c'est pas à moi à dire qu'il faut lever le confinement.
Non, mais de toute façon, on va le maintenir tant que là. Mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression que c'est largement mis en place parce qu'il n'y avait plus de masque, parce que tout avait été impréparé de ce point de vue-là.
Oui, alors c'est sûr que tout le monde a été pris de court. Il me semble que beaucoup de personnes, je vois beaucoup de personnes passer et dire qu'ils l'avaient prédit, mais autour de moi, beaucoup de médecins ne pensaient pas qu'on allait se retrouver dans une telle zizanie, avec autant de problèmes, parce que on a eu la fausse bonne expérience du H1N1 qui nous a faussement rassurés. On s'est dit que, de toute manière, à force, c'est l'histoire de quand on crie au loup, vous savez, on crie au loup une fois, deux fois, et la troisième fois, on ne vous croit pas. Eh bien, je pense que c'est ce qui nous est arrivé. Et malheureusement, on est tombé dans le panneau. Et cette fois-là, les Chinois avaient raison de nous avertir. Parce que ce virus, de ce qu'on a l'impression cette fois-ci, c'est qu'il est plus dangereux pour l'Européen. On a cette impression-là. Après, c'est que à chaud que je vous réponds.
Oui, puis on peut, si c'est un élément de statistique, de chiffres, mais en fait, pour quelles raisons, etc., on ne sait pas encore. Disons que c'est une impression qu'on a au vu des chiffres.
Oui, on a, parce qu'on ne peut pas imaginer que les Italiens, qu'on aurait fait mieux que les Italiens, quoi.
Ouais.
Donc, et pourtant, on n'a pas l'impression d'avoir une mauvaise médecine. Bon, alors on compare toutes les médecines maintenant, l'anglaise avec l'allemande, etc. C'est compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que quand même, dans nos pays, on n'est pas habitué à une certaine distance sociale, et que donc cette manière qu'on a d'interagir les uns avec les autres a favorisé la propagation du virus. Ce qui est certain, c'est que ce virus-là entraîne des pathologies extrêmement graves qu'on n'avait pas, dont on n'avait pas mesuré la gravité.
Mmh. Voilà. Ouais. Alors sinon, il y a une question qui nous est envoyée par une auditrice qui nous dit, après, quand on est guéri en fait, est-ce qu'on est immunisé pour combien de temps? Parce que effectivement, c'est les anticorps qui se mettent en place et on dit, bon, bah, une fois qu'on a été guéri, on est sorti de l'affaire. Qu'est-ce qu'il en est de cette affaire-là?
En fait, on n'en sait rien. Comme je vous ai dit au tout début, en fait, on n'a pas encore d'éléments pour faire des sérologies.
D'accord.
Vous savez, on parlait avant de séropositif pour les VIH, pour le SIDA, et donc du moment où le sida est apparu et au moment où on a isolé le virus, il a fallu des années. Et puis ensuite, pour trouver une sérologie, c'est-à-dire dire qu'un tel l'avait, faire un dépistage systématique, efficace, il a fallu encore plusieurs années. Pour trouver des médicaments efficaces, il a fallu encore des années. Et donc maintenant, le sida, c'était il y a 30 ans.
Oui, oui.
Et on se souvient pas de cette époque, je pense que vous en souvenez.
Oui, tout à fait.
Où on se demandait si l'humanité allait survivre.
Oui, c'était au début, ça paraissait petit, ça confinait sur certaines communautés. on disait le mal du légionnaire, enfin, des choses comme ça. Et puis, progressivement, il y a eu une panique qui s'est mise en place parce que personne ne savait. Ben, on disait, mais comment on arrête ce truc, quoi? C'était...
Voilà, et, ouais. Et donc on a trouvé des personnes qui étaient porteurs sains du virus du sida. On a trouvé, donc on a trouvé des résistances génétiques. On a testé aussi, on a pu tester des médicaments, etc. Là, on est sur un virus qui vient d'arriver. Ça fait 4 mois qu'il est sur la planète. C'est très délicat d'isoler les anticorps que l'on pourrait générer. Nos chercheurs sont je pense, ils doivent travailler à ça jour et nuit. Quand je vois, nous, les échanges qu'on a entre confrères, je pense qu'il ne se passe pas une heure sans qu'on n'ait pas un échange entre confrères. Tiens, est-ce que tu as lu ça? Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as entendu pas? Donc, pour les soignants, même à l'hôpital de Sainte-Afrique, aux urgences, on échange énormément. On essaye tous de se mettre à la page, d'essayer de faire au mieux. Mais on n'a pas assez de recul aujourd'hui pour dire. Je pense qu'on peut raisonnablement penser qu'on va s'immuniser à terme après avoir contracté la maladie, quand on ne le sait pas, puisque on ne sait pas si on a été malade, on ne sait pas si, quand on a été guéri, toutes ces données là on ne les a pas, donc on ne peut pas répondre à cette question. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'au tout début, quand était prévue la pandémie, le ministère de la Santé avait prévu que lorsque les soignants tombaient malades, ils mettraient un masque chirurgical et retourneraient travailler. Mmh. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit, parce qu'on pense qu'en fait, le soignant qui tombe malade prend une première charge virale, et l'hypothèse, c'est que s'il retourne travailler, qu'il reçoit une deuxième charge virale, il a plus de chances de décéder.
D'accord, c'est cumulatif en fait. On a l'impression qu'il y a un effet cumulatif dans ces cas-là, quoi.
C'est l'hypothèse qui est retenue par le gouvernement à l'heure actuelle, par les instances savantes de notre pays. Peut-être que ce sera affirmé plus tard, mais pour l'instant,
c'est la piste. Bon.
On voit ça comme ça. Mmh. Maintenant, peut-être que quand on n'aura plus de soignants, on verra comment on s'organisera.
Bah attendez, pas plus de soignants. Justement, je voulais déjà vous faire part, mais vous savez de notre soutien. Et est-ce que du côté du personnel soignant, ça tient le choc? Qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Vous avez l'impression quand même d'être pris en compte, d'être...
Oui, je pense que les soignants sont très sensibles à toutes les mains, toutes les manifestations à leur égard. Ils sont conscients de la mission qu'on leur confie, peut-être aussi du danger qu'ils affrontent. Ils font pour le mieux. Ils sont conscients aussi, je pense que, pour ma part, du moins, je peux dire que je suis conscient que je suis moins confiné quand même que les autres, même plus exposé, mais moins confiné. Chacun a son, à mon sens, à l'heure actuelle, à sa charge, que ce soit des enfants à garder, des devoirs à faire à ses enfants, une personne âgée à aider. Tout le monde a quelque chose à faire aujourd'hui. Et il n'y a pas que les soignants qu'il faut féliciter, je pense, c'est l'ensemble du pays qui, à mon avis, j'irais peut-être à l'encontre de ce qu'on a pu entendre de la part du gouvernement. Je voudrais plutôt féliciter nos citoyens qui avaient l'habitude de se faire la bise, de se serrer la pince, et qui, du jour au lendemain, ne se touchent plus, gardent un mètre d'écart, font attention quand ils sortent. Moi, je trouve que la population française apprend vite, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Alors bon, certes, pas, pas assez vite en regard de la rapidité d'action du virus, mais quand même, on peut dire que la population française apprend vite.
Ok, je vous remercie. Est-ce que vous avez... Bon, je compte bien vous reposer les questions des auditeurs dans les jours qui viennent, docteur. Est-ce que vous avez un point que vous voulez ajouter à la date d'aujourd'hui ?
Non, j'ai pas de... À part... Soyez solides et tenez-vous aussi que tout le monde tienne bon et que tout le monde fasse pour le mieux. Je pense que chacun peut réfléchir en fonction des données qu'il a aujourd'hui à comment mieux organiser le pays pour que il puisse continuer à fonctionner sans que l'épidémie progresse. Je pense que ça, c'est une vraie question, parce que la question médicale, les médecins peuvent s'en occuper, et je pense que l'ensemble de la communauté scientifique est dessus, la communauté scientifique mondiale, même s'il y a des dissensions, bien entendu. Je pense quand même qu'à l'intérieur du pays aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont capables de réfléchir en termes de santé publique, de prévention et de fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'on va dépenser des milliards et qu'hier, on se battait pour des millions.
Oui, on se battait pour garder des lits et maintenant, on en manque aussi. C'est vrai que, y compris l'importance du personnel soignant apparaît maintenant criant, même si il y a un moment, il y a plus d'un an qu'on vous entend, médecins, infirmières, aides-soignants, etc. C'est vrai que là... Personne ne peut plus douter de l'importance de ce métier, de ce service. Enfin, c'est clair pour tout le monde. Je pense que ça va quand même faire penser un peu en mode d'organisation de la société à des choses, quoi.
Après, oui. Après, on peut toujours mettre plus de moyens dans une chose, dans un domaine ou dans un autre. On peut remercier aussi l'armée pour les services qu'elle rend aujourd'hui. Et si on avait diminué le budget de l'armée, on s'en mordrait les doigts encore plus.
Alors ça dépend. Si on l'avait mis dans les hôpitaux, ce serait autre chose. C'est vrai que c'est des impôts tout ça. De toute façon, l'armée fonctionne avec nos impôts, donc quelque part c'est bien qu'ils le fassent, mais faut pas oublier que il y a des logiques financières qui bon, c'est peut-être pas l'heure d'en parler. On fera le point là-dessus, mais c'est clair que la société va devoir s'organiser sur l'essentiel quand même. Revenir à des choses essentielles comme cette crise nous le rappelle quand même.
Je pense que la vie sera plus jamais comme avant et qu'il faut que chaque Français, chaque Française, chaque Européen, Européenne apprenne à l'heure d'aujourd'hui à se prémunir et à préserver les autres de nouvelles maladies.
Nouvelle de nos amis les bêtes. Les cadres sont toujours surprenants. Dans un EHPAD mis à voie sur Sainte-Anne, en fait, il y avait des masques, mais ils étaient gardés bien au chaud au cas où la crise commence, se disait la responsable. Il a fallu quand même un coup de colère du personnel hier pour obtenir les masques. Tout le monde les a maintenant, ça a pris une demi-heure, mais il a quand même fallu que le personnel s'agace un peu. On se demande sur quelle planète vivent certaines. Des initiatives partant de crise. Tout le monde des marchés, des producteurs locaux, il y en a beaucoup dans notre coin qui font souvent de la qualité, en légumes, en pain, en viande, fromage, etc., sont très percutés par les interdictions sur les marchés. Donc la démarche est engagée pour essayer de voir comment maintenir des marchés de proximité en sécurité, maintenir une alimentation saine et proche. Donc là, vous avez des initiatives qui sont prises. Alors il y a des informations pour les mairies que ça intéresserait ou les militants qui voudraient monter des projets. Il y a Solidarité Paysanne 1281@orange.fr. Solidarité Paysanne 1281@orange.fr. Vous demandez à cette adresse et on vous enverra un kit pour savoir comment s'organiser de manière à pouvoir maintenir des marchés de plein vent qui soient sécurité. Initiative aussi du côté du parking de Fize, vous savez, sur la route d'Albi vers Vabre. Mercredi et samedi, de 9h à 12h30, un maraîcher vend son produit bio, il vend différents légumes, etc., et tout en bio. Donc c'est une autre initiative qui a été prise. Sur Radio Saint-Aff, l'information continue au temps du coronavirus. Alors quelques réponses à des questions qui sont posées par des auditeurs. Le contrôle technique, et oui, on est convoqué à un contrôle technique, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, en fait, dans cette période, les contrôles techniques sont prolongés de 3 mois, dit la gendarmerie. Donc, vous avez un petit délai de 3 mois pour aller à ce contrôle, pas la peine de prendre des risques inutiles. Et voilà. Alors, avec un grand merci pour Alex, notre technicien, qui assure la mise en onde de l'ensemble des interviews et des propos, des informations que nous récoltons dans notre confinement. Merci à lui, donc, à Alex. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'adresse que nous avons lancée pour cela. Et donc, questions@radiosaintafrique.com. Voilà. À plus.
À la route! Si j'avais su, j'y serais allé. Avec des potes, on serait marré. Au lieu de rester assis sur mes fesses et de me lamenter sans cesse, j'aurais pas perdu ma journée. Si j'avais su, j'y serais allé.
Petit à petit, les hôpitaux sont fermés, mais à Carré dans le Finistère, ils sont allés voir le préfet d'un peu plus près.
Et l'hôpital a réouvert. La liste est longue et on va s'arrêter, mais vous avez compris l'idée. Ce n'est pas en restant les bras croisés qu'on changera de société. Maintenant je sais, je vais y aller, soutenir et accompagner.
Dans les écoles,
les facs et les lycées,
dans les squats,
avec les expulsés,
dans les boîtes,
pour être mieux payés,
dans les restos,
avec les sans-papiers.